Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 16 mai 2024. Au Tchad, le Conseil constitutionnel confirme la victoire de Mahamat Debi Itno à la présidentielle du 6 mai. Présidentielle en Mauritanie, 8 candidatures déposées, dont celle des deux derniers présidents. Une délégation du Pentagone se trouve au Niger pour discuter du retrait des troupes américaines. Dans l'est de la RDC, les autorités réagissent après la levée de boucliers contre l'état de siège dans l'Ituri.
Évidemment, il y a des tireurs de ficelles parce que, en fait, ils considéraient cette province comme leur bien. Il y avait absence de l'État.
Le lieutenant-général Johnny Louboya, gouverneur de la province de l'Ituri, à suivre dans la partie magazine. Le ministre israélien de la Défense s'oppose à ce qu'Israël contrôle Gaza après la guerre. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, proclamé chef de l'État par l'armée il y a 3 ans, a été élu président du Tchad avec 61,61% des voix le 6 mai, selon des résultats définitifs proclamés aujourd'hui même par le Conseil constitutionnel. La requête en annulation du scrutin déposée par son premier ministre et rival à l'élection, Succès Masra, a été rejetée par la juridiction suprême. André Kodbajinga est notre correspondant à N'Djamena.
Considérant que le candidat Mahamat Idriss Déby Itno, ayant obtenu 3 777 279, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, qu'il convient de le déclarer élu président de la République, chef de l'État.
Maître Jean-Bernard Padaré, président du Conseil constitutionnel, confirmant les résultats provisoires de l'élection présidentielle annoncée le 9 mai dernier par l'Agence nationale de gestion des élections. Ainsi donc, après 3 ans passés à la tête du pays comme président du Conseil militaire de transition, suite à la mort tragique de son père en 2021, puis président de la transition à l'issue du dialogue national inclusif et souverain, le général Mahamat Idriss Déby vient d'être élu selon le Conseil constitutionnel président de la République parmi les 10 candidat en lice avec 61% au lieu de 61,3% pour un mandat de 5 ans. Docteur Assiongar Succès Masra est confirmé deuxième avec 18,54% et Paimi Padaké Albert 16,93%. A noter que Docteur Assiongar Succès Masra est le seul candidat à remporter dans 2 provinces avec un peu plus de 80% chacune sur 23 face à Mahamat Idriss Déby. Se prononçant sur les requêtes déposées par certains candidats malheureux sur diverses irrégularités constatées, le président du Conseil constitutionnel Maître Jean-Bernard Padaré déclare recevable les requêtes des candidats Paimi Padaké Albert et Dr Assiongar Succès Masra, ordonne la jonction des dites requêtes et se déclare incompétent en ce qui concerne le trouble à l'ordre public et renvoie les requérants à mieux se pourvoir. Dr Assiongar Masra Succès informe sur sa page Facebook qu'il va adresser un message à la nation dans les heures qui suivent. André Kodumajingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
En Mauritanie, 8 personnalités ont fait acte de candidature à la présidentielle du 29 juin avant le délai fixé, dont le président sortant Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, mais aussi son prédécesseur Mohamed Ould Abdelaziz. Les précisions avec Deli Diko.
Les candidats avaient jusqu'à mercredi minuit pour se déclarer. Le porte-parole de Mohamed Ould Abdelaziz, à la tête du pays de 2008 à 2019 et actuellement en prison, a indiqué mardi qu'il est écarté, faute de parrainage nécessaire. Mais M. Aziz a créé la surprise en se rendant au Conseil constitutionnel dans la nuit, peu avant l'échéance et sous forte escorte, pour déposer son dossier. La Cour d'appel a annoncé peu avant autoriser son déplacement à cette fin. Des dizaines de supporters ont chanté ses louanges, mais ses gardes l'ont empêché de s'exprimer. Le dossier de M. Aziz manque toujours de parrainage, mais son mandataire a assuré qu'il a encore 2 jours pour les compléter. Parmi les candidats figure le leader du parti islamiste d'opposition, Tewassoul, Amadi Ould Sid El Mokhtar, et le militant des droits humains, Biram Ould Da Ould Abeid, deuxième à la présidentielle de 2019. Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 29 mai pour publier la liste des candidats.
Au Bénin, 8 djihadistes présumés ont été tués par l'armée dans le nord du pays mardi, alors que le Bénin fait face, comme ses voisins, à une menace croissante d'attaques de groupes extrémistes. Selon des sources sécuritaires, l'opération a été menée dans la zone de Karimanma et s'est soldé par une lourde perte pour les individus armés non identifiés, soupçonnés d'activités terroristes dans la partie nord du Bénin. Une délégation américaine de haut niveau est arrivée à Niamey pour discuter du plan de retrait des troupes américaines exigées par le régime au Niger. L'annonce a été faite hier par le ministère nigérien de la Défense. Les précisions avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
C'est la première rencontre officielle entre les deux parties depuis la dénonciation en mars dernier de l'accord de coopération militaire qui liait les deux pays. La délégation américaine, composée du chargé des opérations spéciales et des conflits de faible intensité au secrétariat à la défense et du directeur du développement des forces interarmées au département de la défense, a été reçue par le général de corps d'armée Salifou Modi, ministre de la Défense nationale. Elle est venue avec un projet de plan de retrait qui sera discuté avec des experts militaires nigériens pour un retrait en ordre, en sécurité et dans les meilleurs délais, indique le ministère nigérien de la Défense. Ce retrait exigé par Niamey a été accepté mi-avril par Washington, actant ainsi la rupture de leur coopération militaire. Une rupture justifiée en début de semaine par le premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zène dans une interview au journal américain Washington Post par des menaces proférées par des officiels américains contre le Niger si ses autorités signaient un accord pour vendre de l'uranium à l'Iran. Il faut noter cependant que la coopération américaine pour l'aide au développement devrait, elle, se poursuivre avec un nouvel accord de montant de près de 500 millions de dollars américains sur 3 années, selon le ministère nigérien des Affaires étrangères. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le gouvernement gabonais refuse toute forme de torture ou de mauvais traitements envers la famille de l'ex-président Ali Bongo et affirme que celui-ci est libre de quitter le pays en réponse à une plainte déposée en France par les avocats de la famille. L'ex-président Ali Bongo Ondimba avait entamé une grève de la faim en signe de contestation. Les forces armées du Sénégal ont intercepté plus de 500 migrants en mer au cours du mois de mai lors de 4 opérations distinctes mettant en lumière la poursuite du flux des départs vers l'Europe. Les occupants des 4 embarcations étaient originaires du Sénégal ou de la sous-région. Le président tunisien Kais Saied s'est insurgé ce jeudi contre les critiques occidentales après l'arrestation d'avocats et des figures des médias défendant la légalité de ces mesures qui marquent un nouveau recul des libertés dans le berceau du printemps arabe. Ce jeudi, des centaines d'avocats et défenseurs des droits humains ont manifesté à Tunis, la capitale, en signe de protestation et pour réclamer le respect des droits et libertés dans le pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le génocide commis par Israël a atteint un niveau horrible, a déclaré aujourd'hui devant la plus haute juridiction de l'ONU, l'Afrique du Sud, qui demande au juge d'enjoindre à Israël de cesser son incursion à Rafah. Les avocats de Pretoria, qui appellent les juges à ordonner un cessez-le-feu à Gaza, ont donné le coup d'envoi de 2 jours d'audience au palais de la paix, siège de la Cour internationale de justice. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a reproché hier au premier ministre Benjamin Netanyahou de ne pas avoir élaboré de plan pour gouverner Gaza après la fin de la guerre d'Israël contre le Hamas. Mais M. Netanyahou a déclaré qu'il était inutile de le faire tant que les militants n'étaient pas vaincus. Nani Talani.
Dans le cadre d'un désaccord inhabituel entre les deux dirigeants, M. Gallant a déclaré à la télévision qu'il avait constamment soulevé la question au sein du cabinet depuis octobre et qu'il n'avait reçu aucune réponse. Selon M. Gallant, l'action militaire actuelle à Gaza doit être suivie d'une action politique. Après l'attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre et la contre-offensive israélienne contre les militants du Hamas à Gaza, M. Netanyahou a refusé à plusieurs reprises de présenter un plan d'après-guerre pour la gouvernance de la bande de Gaza. Les États-Unis, principal fournisseur d'armes d'Israël, ont demandé qu'une autorité palestinienne revitalisée gouverne à la fois Gaza et la Cisjordanie dans le cadre d'une solution à 2 États, la Palestine aux côtés d'Israël. Mais M. Netanyahou et sa coalition gouvernementale de droite s'oppose catégoriquement à une telle solution.
Le roi du Bahreïn a appelé ce jeudi à une conférence internationale de paix pour le Proche-Orient devant les dirigeants arabes réunis à Manama pour un sommet dominé par la guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza. Le royaume appelle à une conférence internationale et à soutenir la pleine reconnaissance de l'État de Palestine et son adhésion aux Nations Unies, a déclaré Ahmed Ben Issa Al-Khalifa à l'ouverture du 33e sommet arabe. Et puis Xi Jinping et Vladimir Poutine ont condamné ce jeudi le comportement à leurs yeux de plus en plus agressif des États-Unis et promis de renforcer la coopération militaire entre la Chine et la Russie en dépit des mises en garde de Washington. Le président russe est arrivé en Chine ce jeudi pour une visite d'État de 2 jours, son premier voyage à l'étranger depuis son investiture pour un nouveau mandat de 6 ans le 7 mai dernier. Pékin et Moscou affichent leur intention d'approfondir encore le partenariat sans limite qu'ils ont scellé en février 2022 avant que la Russie n'entre en guerre contre l'Ukraine. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec John Lindon.
Le Cameroun va contracter un crédit auprès de la Banque islamique des développements d'un montant d'un peu plus de 122 millions d'euros, soit plus de 80 milliards de francs CFA. Ce prêt est, selon le site ecomatin.net, destiné au financement du projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad. Ce montant s'ajoute aux 178 milliards de francs CFA octroyés par la Banque mondiale en décembre dernier et à la participation du Cameroun qui s'élève à un peu plus de 56 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire a officiellement lancé le 13 mai dernier son programme baptisé « Diversification, accélération industrielle, compétitivité et emploi ». Ce programme vise à renforcer la diversification économique, la transition verte et le développement industriel, moyennant des financements d'un montant global de 117 milliards de francs CFA. Selon l'agence Ecofin, ce programme est soutenu par la Banque africaine de développement et le Fonds African Growing Together Fund.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le Ghana atomise la Côte d'Ivoire en ouverture du tournoi UFOAB à Accra.
Oui, grâce à un énorme Joseph Narbi, auteur d'un doublé, le Ghana a lancé sa compétition avec un large succès, 5-1 face à la Côte d'Ivoire dans ce tournoi des moins de 17 ans. Ce soir, le Burkina Faso affronte le Nigeria et le Togo défie le Niger. Les deux finalistes vont valider leur billet pour la prochaine CAN des moins de 17 ans.
La FIFA envisage d'autoriser les matchs de championnat à l'étranger.
L'instance dirigeante du football mondial a en effet décidé de créer un groupe de travail de 10 à 15 membres chargé d'examiner l'idée et de formuler des recommandations dans les prochains mois. Le Conseil, l'organe décisionnaire de la FIFA, a déclaré que le groupe examinerait 10 aspects relatifs à l'organisation de matchs à l'étranger. Il s'agit des répercussions pour les supporters des équipes susceptibles de jouer à l'étranger, du nombre de matchs autorisés à se dérouler hors du territoire, entre autres. Des compétitions officielles mais secondaires comme la Supercoupe d'Espagne organisée ces dernières années en Arabie Saoudite ou le Trophée des champions français disputé désormais quasiment chaque année à l'étranger ont déjà sauté le pas. Mais les championnats restent encore sous la coupe du règlement FIFA. Le congrès annuel de la FIFA se tient demain vendredi à Bangkok en Thaïlande et l'organisation de la Coupe du monde féminine 2027 y sera octroyée. Le Brésil et un ticket Allemagne, Belgique, Pays-Bas sont en compétition.
NBA avec les play-offs, Boston se qualifie pour la finale de la conférence Est.
Les Celtics ont surclassé les Cleveland Cavaliers 113 à 98, portés par Jason Tatum, auteur de 25 points, 10 rebonds et 9 passes décisives. Boston gagne sa série 4 victoires à 1 contre les Cavaliers amoindris par des blessures. Boston se qualifie ainsi pour la finale de la conférence Est pour la 3e année consécutive. Les Celtics vont affronter les New York Knicks ou les Indiana Pacers pour une place en finale NBA. De son côté, premier de la saison régulière de la conférence Ouest, le Thunder est au bord de l'élimination menée 3-2 par Dallas après le match 5 à Oklahoma City. La star des Mavericks, Luka Doncic, a réalisé un triple-double en terminant avec 31 points. 10 rebonds et 11 passes décisives pour permettre à Dallas, justement, de l'emporter 104 à 92. Les Mavs mènent la série 3-2 et peuvent décrocher une place en finale de la conférence Ouest en remportant le sixième match samedi à Dallas.
Page d'espoir VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri a procédé à l'évaluation de l'état de siège dans le territoire qu'il dirige. Le lieutenant-général Johnny Luboya estime que cette mesure instaurée il y a 3 ans a permis de réduire l'insécurité dans l'est de la RDC. Il a dit au micro d'Antoine Roger Bolamba.
C'est vrai que peut-être les gens veulent vraiment la perfection. Ça peut être, c'est vrai, peut-être on veut la perception et la perfection. Mais la vérité, c'est quoi, monsieur? C'est que quand nous sommes arrivés ici, même dans cette ville de Bounia, une semaine avant, on se promenait avec des têtes de mort. Une semaine avant. Mais aujourd'hui, des pans de territoire où il n'y avait personne. Je vous ai parlé ici de Niakoundé. Je vous ai vous quittez Bounia ici. Vous arrivez à l'entrée de Komanda. Il n'y avait pas âme qui vive. Je suis la première personne qui suis descendue là-bas. J'ai trouvé un médecin avec 3 vieilles dames qui ne pouvaient pas marcher et le chef coutumier qui nous attendait. Sur la R24, donc de Komanda à Douala, c'était tous les jours des incendies de véhicules. De Iga Barrière à Mongoual là-bas. Les gens ne pouvaient pas circuler. Katanga, de Ngote à Djalassé, il n'y avait personne. Mais comment est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le résultat est néant ou que non? Mais ça, c'est
parce que là, on a dit qu'il y a un peu beaucoup plus de morts que même c'était avant l'état de siège aujourd'hui. Est-ce vrai?
Comment il y a plus de morts? Il y a toujours eu des morts. Cette guerre, ça fait combien d'années qu'elle a commencé? Ça fait combien d'années? Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, on veut dire qu'il y a eu plus de morts maintenant. Et évidemment, il y a des tireurs de ficelles parce que, en fait, ils considéraient cette province comme leur bien. Il y avait absence de l'État. Ils ont voulu, n'est-ce pas, ils ont voulu rester dans l'État ou l'État, dans cet État-là de non-État, excusez-moi la tautologie. Mais malheureusement, ils ont beau manipuler, aujourd'hui, il y a un résultat palpable.
Par rapport à l'état de siège, comment est-ce que ça se porte dans votre province? Faudrait-il maintenir l'état de siège ou pas?
Si on se dit que les gens vont se tenir tranquilles, OK, l'état de siège va partir. Mais étant donné ce qui se passe au Nord Kivu, je ne pense pas qu'il soit prudent vraiment d'abandonner la province de l'Ituri. Parce que, effectivement, le M23, il est en train de recruter ici à l'Ituri, ici, pas pour rire en tout cas. Ils veulent aussi créer le désordre ici.
Le lieutenant-général Johnny Luboya, gouverneur militaire de la province de l'Ituri.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi, évidemment sur le 102.8 FM.
Au Gabon, une sévère pénurie d'eau frappe plusieurs ménages de Libreville. Le fait n'est pas nouveau dans ce pays où il pleut pourtant 9 mois sur 12. Mais le caractère cyclique de la crise inquiète davantage les populations à la veille d'une saison sèche connue pour son impact sur le débit des cours d'eau. Le gouvernement assure qu'il travaille au retour à la normale de la situation, des déclarations qui sont encore loin de calmer les victimes du stress hydrique. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
La tension est au maximum dans plusieurs quartiers, foyers et commerces en restriction d'eau depuis plusieurs mois. Justin habite à Kébé Plaine, l'un des rares quartiers de Libreville, à disposer d'une fontaine publique. Mais il faut s'élever tôt ici pour être parmi les premiers servis.
Ça fait peut-être une semaine qu'on a positionné et il y a des jours quand même où l'eau ne vient pas. On a fait déjà 2 jours là, c'est encore aujourd'hui que l'eau est arrivée. Donc on ne sait pas s'il faut augmenter le débit d'eau pour que tout le monde puisse avoir de l'eau, en tout cas tout au long, surtout même la journée.
Une sous-alimentation de la ville aux précieux liquides plus accentuée dans des zones périphériques. Le jeune Ganaël, 22 ans, fait chaque jour la boucle du quartier Montalier pour se ravitailler dans cette station de lavage de véhicules.
Même des mamans qui n'ont pas des jeunes enfants comme nous là, qui viennent même avec l'enfant d'eau jusqu'ici là. Et putain, c'est des très longues distances.
Face à cette crise de l'eau, c'est presque tout Libreville et ses 800 000 habitants qui sont dans le désarroi. À Ovindou, une commune urbaine plus proche de la capitale gabonaise, le calvaire des populations est le même. Julie et ses voisins du quartier Gomier se servent d'une eau souterraine pour leurs besoins domestiques.
Nous avons la grâce que ça ne tarit pas. C'est vrai que parfois ça peut diminuer, la pression change, mais sinon c'est le seul point d'eau que nous avons ici.
Touchés par la pénurie d'eau au même titre que les ménages, les écoles privées peinent à garantir l'hygiène des sanitaires et des élèves. Alors, le réflexe dans l'incertitude du lendemain est de faire des réserves pour une facture qui crève le budget annuel de l'établissement. Charles Tamoufoumou, Kiben, Chikaya est directeur d'école.
Par année, nous avons 2 700 000 francs pour de l'eau seulement. Et ce qui s'ajoute comme des imprévus sur le budget de l'établissement, il tombe de plus chez nous presque 2 fois ou 3 fois par semaine, mais nous n'avons pas de l'eau dans nos robinets.
Grâce à un fonds de 42 millions d'euros cofinancé par le groupe de la Banque africaine de développement et la Banque populaire de Chine, le gouvernement a pu mettre sur pied un projet d'amélioration de la desserte en eau du Grand Libreville. Le chantier en cours d'exécution sera livré dans moins de 2 mois, indique le rapport à mi-parcours du projet publié le 16 avril dernier par la Banque africaine de développement. Ismaël Obiorosé pour VOA Afrique, Libreville.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Sénat nigérien a voté en faveur de l'application de la peine de mort pour les trafiquants et importateurs de cocaïne, d'héroïne et d'autres drogues dures. Le géant ouest-africain fait face à une montée du trafic et de la consommation de la drogue. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Si la loi est promulguée par le président Tinubu, la peine de mort s'appliquera désormais aux personnes condamnées pour leur implication dans la production, le transport, la vente et la distribution des drogues au Nigeria. Actuellement, la peine maximale est la réclusion en perpétuité pour ces criminels. Mais les débats pour en arriver là étaient houleux. Le sénateur Aline Doubmé, initiateur du projet de loi contre la peine de mort.
I am surprised.
Je suis surpris que la commission recommande une punition plus facile. C'était la peine d'emprisonnement à vie. Nous devrions changer cela à la peine de mort. C'est une pratique partout dans ce pays pour ceux qui sont impliqués dans ce trafic. Donc, quand il s'agit d'étudier cet article point par point, veuillez, distingués collègues, approuver le changement de la section 11 à la peine de mort.
La nouvelle version adoptée remplace ainsi la peine d'emprisonnement à perpétuité qui était auparavant la peine la plus sévère. Mais certains activistes expriment leurs préoccupations. Jemila Abdul, directrice de ComEd, une initiative des jeunes contre les abus de drogue.
La condamnation à mort est irréversible, donc si une personne innocente, par exemple, est poursuivie, reconnue coupable et condamnée à mort, et que se passe-t-il après que son innocence est prouvée par la suite? Ce sont donc des questions que nous devons examiner.
Les partisans de la peine de mort ont fait valoir que la menace d'exécution serait plus dissuasive pour les trafiquants de drogue que l'emprisonnement à vie. Les sénateurs opposés à cette mesure ont exprimé leurs inquiétudes quant au caractère irréversible de la peine de mort et à la possibilité de condamnation injustifiée. C'est le cas du sénateur Adams Oshomole du parti au pouvoir APC.
We must be honest, transparent in the decision.
Nous devons être honnêtes et transparents dans notre décision. Je suis responsable devant ma conscience et devant ma communauté. La peine de mort n'est pas l'affaire d'un vote pour ou contre. Tout le monde devait voter pour que nous soyons comptés. Comme ça, ceux qui ont voté pour la mort sont ceux qui votent pour la punition. Non, je ne peux pas. Nous passons au vote.
Certains Nigériens sont aussi inquiets concernant l'application correcte des lois au Nigeria. Abdul Razak, un résident d'Abuja.
Nous espérons que même si nous devrions examiner cette loi, aucun Nigérian ne doit être épargné. Il n'y aura pas de Nigérians considérés intouchables qui doivent être exclus de l'application de la loi. Cela nous amène à un autre point ici. Au Nigeria, nous avons des lois, mais le problème, c'est l'application de ces lois. Oui, il y a des gens qui sont au-dessus des lois dans le pays. Que faisons-nous pour en tenir compte dans ce cas?
Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 200 millions d'habitants, est passé ces dernières années du statut de point de transit de drogue illégale à celui de véritable producteur, consommateur et distributeur. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Aux États-Unis, chaque année, il y a moins d'organismes de presse qui couvrent les communautés locales, y compris à proximité de la capitale du pays. Certains journalistes lycéens tentent de pallier cette pénurie. Robin Guest nous en parle depuis le comté de Montgomery, tout près de Washington. Un récit de John Lyndon.
La salle de rédaction du lycée Walter Johnson et ses élèves journalistes couvrent l'actualité du comté de Montgomery dans le Maryland, qui a connu un déclin des médias locaux, bien qu'il s'agisse de l'un des comtés les plus riches du pays. Seyoum Park, rédacteur en chef du journal.
Je pense que les nouvelles de la communauté sont vraiment importantes parce que dans notre région, il y avait beaucoup de journaux.
Il y a 20 ans, 8 journaux couvraient cette région. Ils ont tous fermé leurs portes, sauf le Montgomery County Sentinel, fondé en 1855. En difficulté pendant la pandémie de coronavirus, il a cessé son édition papier en 2022. Mais il survit en ligne grâce à un partenariat lancé avec ses étudiants qui écrivent et font des reportages pour le Sentinel. Ici, dans la salle de rédaction du journal, l'étudiant appelé The Pitch, les étudiants journalistes publient en ligne le journal et le magazine Sentinel. Il ne s'agit pas seulement d'informations sur le campus. Leurs articles se concentrent sur les nouvelles de la communauté qui intéressent les étudiants, comme des commentaires sur le racisme, des reportages sur le financement de l'éducation et les dernières nouvelles du sport local. Mia Halper, étudiante en journalisme à Depiche.
L'avenir du journalisme n'est pas aussi sûr qu'il l'était autrefois. Il a beaucoup changé au fil des ans. Et nous, en tant qu'étudiants journalistes, avons une nouvelle place à occuper dans ce domaine.
Parfois, le Sentinel demande des articles aux étudiants avec l'approbation de leurs conseillers, mais le journal choisit généralement ce que les étudiants ont déjà publié dans l'Opiche. Wendy Borelli, conseillère en journalisme et enseignante au lycée Walter Johnson.
Cela a évolué vers le processus actuel où lorsqu'ils voient quelque chose qu'ils aiment et dont ils pensent qu'il y aura un impact sur la communauté, ils demandent l'autorisation. C'est la solution idéale.
Mark Kapilov, éditeur du Montgomery County Sentinel.
We're honored that they...
Nous sommes honorés qu'ils pensent que nous sommes l'endroit approprié pour leur donner une voix. J'apprends tout le temps d'eux. Il n'y a pas que les journalistes de lycée, il y a aussi les journalistes d'université.
Selon des chercheurs de l'université Northwestern, plus de la moitié des comtés américains n'ont qu'un accès limité à des informations fiables. Les lycéens et les étudiants sont de plus en plus considérés comme un moyen de combler cette lacune. De nouveau, Seyoum Park.
Le fait qu'un éditeur prenne notre travail au sérieux et reconnaisse que ce que nous faisons est une véritable affaire signifie beaucoup pour moi et pour tous les étudiants rédacteurs qui travaillent dur pour publier ces articles d'actualité.
Alison Zhu a été nommée journaliste lycéenne de l'année dans l'État du Maryland. Les lecteurs du Sentinel connaissent sa signature.
Je cherche des sujets dans ma communauté qui me semblent dignes d'être partagés ou qui pourraient être sous-représentés en termes de couverture médiatique. Ainsi, par le passé, j'ai écrit sur des sujets tels que la haine anti-asiatique, en particulier lorsqu'elle s'intensifiait pendant la pandémie, ainsi que sur la pénurie des enseignants à laquelle étaient confrontées les écoles du comté.
Alors que beaucoup sont trop jeunes pour voter, les élections nationales américaines de novembre seront au cœur de l'actualité. De nouveau, l'étudiant journaliste Seyoum Park.
Soutenir le journalisme étudiant est très important en raison du travail que nous faisons, mais aussi en raison du travail que nous ferons à l'avenir.
Pour les lycéens, les principales préoccupations sont souvent les matchs de football, les balles de fin d'année et leurs comptes sur les médias sociaux. Mais dans cette salle de presse, leur attention va au-delà du campus et laisse une trace dans leur communauté.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.